Oui, ça c'est bande de finissage entière. Et ensuite, là, vous avez les champignons. Ça c'est bande sans fin fine. Donc là, vous avez les brosses de cirage, d'extrage. On appelle ça bande de finissage. Quand on veut acheter, bande de finissage. C'est tout le complet. Ensuite, là, la roulette de coupe. Là, c'est roulette de finition. La roulette de cire, le fer à repasser. Ça, c'est un couteau pour le filo. Les pics, là, pour piquer ou coudre, ouais. Asticot à bois pour les bordures des chaussures. Le filo, le fraisage. Après, le fraisage. Asticot à bois. Oh, bah, où
asticot à bois.
Ça c'est le pied aiguisé, c'est le marteau de montage, on peut le rebattre, max le chaussuron, les cuirs, et devant c'est pour étaler le cuir ou allonger les gorges, voilà. Peau de colle, ça c'est la râpe, ça c'est le marteau de piqueur de tige, donc il n'a pas de manche, ça c'est le tanaille, ça c'est le pince à trouver, pour les ceintures de ça, pince marteau, là c'est pour la fabrication, c'est une pince aussi, pour fabrication de fermetures éclair, pour écraser les fermetures éclair, les bords, les côtés, voilà. Donc ça c'est le compas, et là c'est le pince à montage, voilà. On va regarder ça, non ?
On va dire un peu ce qu'on vient d'entendre, mais avant cela, comme introduction, finalement je trouvais sympathique d'imprimer le courrier que peut-être certains d'entre vous ont reçu et qui a été envoyé par Yann Lorto avec lequel nous travaillons les uns et les autres, Yann Lorto de Système Friche Théâtre. Et c'est le courrier qu'il a envoyé il y a quelques jours. Alors je vous le lis. Chers tous, pendant la durée du chantier de transformation de la Friche Label de mai, tous les troisièmes mercredis du mois, le cycle de conversation publique Cause Toujours propose d'aborder collectivement des questionnements liés à la transformation de la ville, au chantier, à l'urbain, trois petits points, des thématiques offrant un visage à certaines réalités complexes de notre société et qui font de ces instants informels une occasion idéale pour poser, simplement et sensiblement, un autre regard sur nos environnements urbains, au singulier et au pluriel. En rouge, mercredi 18 avril à 18h30, deux artistes nous invitent à découvrir leur démarche, inscrite dans le 3e arrondissement de Marseille. qui interpelle la notion de territoire à travers un double prisme. Celui du travail, le travail et le lien social par Christophe Modica, et celui du jardin, l'esprit jardinier par Jean-Luc Brisson. Christophe Modica et Jean-Luc Brisson, l'un bidouilleur sonore et fin explorateur de l'intime, l'autre tour à tour jardinier, dessinateur de nuages, poète, enseignant, trois petits points, présentent leurs travaux irrigués autant par les individus, les rencontres et le contexte de ce territoire que par la friche La Belle de Mai, vécue par l'un et l'autre comme un carrefour d'activités et de tentatives. Nous vous invitons cordialement à venir écouter, partager et échanger avec les artistes autour d'un verre, une conversation publique animée par Radio Grenouille. Entrée, c'est le chantier, cause toujours numéro 9. Rendez-vous face aux grandes tables au restaurant La Friche La Belle de Mai, 18h30. Une proposition de Système Friche Théâtre, la SIC, Friche La Belle de Mai, Radio Grenouille Euphonia. Amicalement, Yann Lorto. Jean-Luc et Christophe, bonjour, salut.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer avec toi, Jean-Luc. On est où exactement là ?
Là, on est sur les restes d'un tas de gravats. C'est un tas de gravats qui a évolué, qui a été occupé par des habitacles, des constructions qui ont été réalisées par des étudiants de Jean-Marc Huguen, qui est enseignant à l'école d'architecture de Lumini à Marseille. Et tout ce qui est entre ces habitacles, eh bien, ce sont des jardins. C'est un jardin que jardinent les étudiants de l'école du paysage à Marseille.
Des étudiants.
Oui. Voilà. Et c'est difficile à imaginer maintenant, mais quand nous avons commencé il y a 2 ans maintenant, à peu près, il y avait un tas de gravats comme ça au bout du parking, juste le long de la voie ferrée. Et on a commencé par trier. Jardiner, c'est souvent commencer par trier, mettre des choses qui vont nous servir, puis des choses qui vont peut-être nous servir, puis d'autres qui vont sans doute pas nous servir, dont on va essayer de se débarrasser, mais sans les fourguer aux voisins. L'esprit jardinier, c'est d'essayer d'en faire quelque chose quand même. Et puis l'autre idée, c'est que ce tri, il conduise vers de la fertilité. C'est-à-dire que ça puisse pousser là-dedans. Et alors évidemment, comme il y avait beaucoup de pierres, bon, c'est vrai qu'il y a une voie un petit peu lente qui est de prendre des masses et puis de faire de la poudre de pierre. C'est un peu la base de la terre, mais ça ne suffirait pas. Il faut des matières organiques. Donc on a fabriqué de la terre avec du compost, on en a ramené, on a fait toutes sortes d'actes jardiniers. Et le premier, un petit peu comment dire, symbolique, c'est un vrai manifeste, c'est d'avoir planté cet amandier dont on est très content qu'il se soit plu ici.
Vous saviez en commençant que, entre autres, les enfants allaient beaucoup s'amuser ici ?
On n'a rien fait pour, mais on était sûr que ça marcherait. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas forcément. Oui, parce que il y a des passages, il y a des coins pour se cacher, il y a des choses. Enfin, comme dans tous les jardins, il y a des choses qui peuvent intriguer. Il y a de la variété, et il y a de la variété avec peu. C'est-à-dire que déjà dans ce tas de gravats, il y avait énormément de plantes. Et un des premiers travaux des élèves, ça a été de faire un inventaire aussi de ce qui poussait. Et une sélection, un tri, là aussi. Celles qui nous plaisaient, on les a gardées. Les autres, on en a fait de la terre.
Ça a été, je ne sais pas si on dit ton ou votre premier geste à la Friche La Belle de Mai. Est-ce que c'est ça qui a amené aussi au fait que de s'y installer plus dans la durée, et pas qu'à la Friche La Belle de Mai, sur le 3e arrondissement aussi de Marseille ?
Oui, mais avant le 3e arrondissement, il y a l'ensemble du site. C'est pas venu tout seul, c'est venu sans doute parce qu'on a... Et c'est souvent le cas, certainement beaucoup plus parlé de jardin que fait de jardin. Le jardin, c'est aussi de la discussion, beaucoup d'histoires qu'on raconte. C'est ce qui donne envie un petit peu. Et à force de parler de jardin, je crois qu'ici, on a eu envie de jardin et on a vu que c'était possible de rendre fertile certains endroits. Pourtant, c'est vrai que ce lieu, il est très minéral, il n'a pas été conçu pour être planté. Mais on peut retrouver de la terre ici et là, on peut s'y intéresser, on peut l'améliorer, on peut un petit peu partout dans ce site donner de la fertilité, de la fraîcheur.
On va aller chercher Christophe, est-ce que tu peux nous rejoindre ? J'ai l'impression en entendant Jean-Luc, le thème du projet que tu inscris avec d'autres ici à la Friche Label de Mai, paraîtrait plus ardu, potentiellement moins poétique. Il s'agit du travail et le lien social, ou je le reformulerai autrement, que cette démarche-là autour du travail et lien social, c'est comme une sorte d'enquête à la Sherlock Holmes, d'essayer, parfois désespérément, de trouver ce qu'il y aurait encore comme lien social dans le monde du travail. Alors peut-être qu'il faudrait aussi qu'on se mette d'accord, en tout cas que tu nous dises comment... Toi, tu définis, selon toi, le travail et le lien social pour qu'ensuite on puisse discuter de leur relation et de cette enquête à la Sherlock Holmes.
Alors, c'est pas évident parce qu'il y a plein de questions dans ta question. D'abord, sur le fait que ce soit éventuellement plus ardu, d'une certaine manière, certainement, parce que le thème lui-même est moins poétique. Après, je crois qu'on a commencé tout à l'heure par écouter une petite création que j'ai faite à partir d'un entretien réalisé avec le cordonnier à la Belle de Mai où il nous parle de ses outils. Et pour moi, il y a une vraie forme de poésie quand cet homme me parle de ses outils, me les décrit, me dit à quoi ils servent. Je trouve pas ça ardu. Donc, il y a aussi une forme de poésie dans cette thématique du travail et du lien social à laquelle je tiens beaucoup. Parce qu'effectivement, ça peut paraître un peu... C'est pas facile. Ou même sans parler du travail, et je crois qu'à travers le projet de Jean-Luc, c'est ce qui se joue aussi. On cherche le lien social. Aujourd'hui, je crois qu'on le cherche tous désespérément dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je pose la question aussi par l'intermédiaire du travail, mais parce que je pose aussi la question de notre rapport au travail. C'est quoi le travail aujourd'hui ? Réaliser ce jardin, c'est un véritable travail à part entière. En tout cas, pour moi, c'est un véritable travail à part entière.
Qu'est-ce qui, pour vous, a fait que vous avez répondu à l'invitation de ce territoire, la Friche Label de Mai ? Ou qu'est-ce qui vous y a attiré ? Alors, vous ne travaillez pas qu'à la Friche Label de Mai, on y reviendra sans doute avant la fin de ce cause toujours. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une sorte d'attraction réciproque et que vous venez y passer du temps avec des équipes, avec des étudiants ? Jean-Luc ?
Je ne sais pas trop, en fait. Moi, c'est la première fois que je suis dans un atelier parmi d'autres. J'ai toujours travaillé seul avant. Et j'imaginais pas du tout ce que ça pouvait donner, en fait. Je crois que j'en avais très peur, mais là, ça me permet de rassembler plein de choses, je vais réfléchir un peu tout en parlant, hein, parce que je sais pas, je crois, je répondrai à cette question plus tard, parce que je sais pas pourquoi je suis là en fait. Moi, je j'ai pas demandé, je suis très content, mais je peux partir. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est très léger justement. Je me sens pas appartenir avec à un village, avec tout ce que ça pourrait représenter de contraintes et de querelles de clochers, tout ça. J'ai pas ça. Je voudrais surtout pas que ça arrive. Et je sens que c'est possible dans un lieu comme ça. Et moi, je suis pas comme ça là. Je suis très bien. Je suis dans un état de travail où voilà, ce qui n'est pas séparé, c'est le côté enseignant peut-être et le côté artiste. Voilà, ça, c'est bien. C'est un terrain où c'est possible d'être les deux sans que ce soit compliqué.
Moi, je crois que ce qui m'a amené à travailler sur ce territoire, et plus particulièrement avec la Friche, c'est des histoires humaines. c'est ma relation avec toi, Jérôme, ma relation avec Julie, avec Nelly. Et c'est par cette entrée des gens, des amis, en fait, que j'ai commencé à travailler sur ce lieu. Pas sur ce lieu, mais avec ce lieu. Et après, les choses se sont mises en place toutes seules. Cette problématique du travail, moi, ça fait longtemps qu'elle m'intéressait. Et à un moment donné, voilà, ça s'est retrouvé dans des propositions que j'ai faites, qui ont nourri des envies qu'il y avait aussi ici. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Ouais, c'est bien ce que tu dis. J'aurais aimé dire un truc comme ça. Ça aurait été beaucoup plus sympathique que ce que j'ai raconté. C'est bien, merci.
Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que, dans les faits, enfin au quotidien, vous fabriquez dans ces démarches-là, depuis quelques mois, à la friche et puis peut-être au-delà? Et puis peut-être, alors effectivement, plusieurs questions dans la question. Il y a manifestement une résonance entre vos démarches et je l'ai tiré, je ne sais plus, dans le texte de qui, mais le mot indéterminé. Et c'est indéterminé, en fait, toute cette pensée-là.
Il y a beaucoup de choses qui résonnent, parce que tout à l'heure, quand Jean-Luc disait essayer de définir ce qu'est être jardinier, amasser des choses, trier, dire ça je vais m'en servir, ça je sais pas, ça pas, je vais pas m'en servir mais je vais quand même en faire quelque chose. J'avais l'impression qu'il parlait de mon travail de la même manière. Moi, peut-être que la seule différence c'est que le tas de gravats, moi je vais le chercher et je le pose quelque part. Et puis après, je fais aussi ça, je trie, je dis ça c'est sûr, je m'en sers, ça je sais pas. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, donc il y a des résonances aussi de manière formelle dans notre manière de travailler. Et après, oui, je crois que, en tout cas moi, dans ma manière d'aborder les choses, c'est d'essayer de créer des contextes qui rendent les choses le plus possible. Des contextes où des rencontres vont se faire, des contextes où on va mutuellement s'enrichir les uns les autres, où... Je cherche pas, tout à l'heure, il y avait une dame qui me demandait si j'avais commencé à avoir des réponses à cette question du travail du lien social, mais en fait, je cherche pas des réponses. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on pose la question et qu'on la triture tous ensemble. Et donc, forcément, c'est indéterminé. Je sais jamais trop exactement où je vais, ni quelle forme ça va prendre. Voilà, je travaille, je rencontre des gens, je rencontre des situations et j'essaye de créer des contextes où on peut se poser la question, y réfléchir. Il y a un aspect très politique, en fait.
Pour des auditeurs qui connaîtraient moins vos démarches, on pourrait se dire, là, depuis qu'on discute là, depuis un petit quart d'heure, mais qu'est-ce qui fabrique? Ce qui n'est pas une question propre à vous, hein, qui est une question assez contemporaine. Mais, donc c'était aussi le sens de ma question, de dire, est-ce que vous prenez des photographies? Est-ce que, vous cultivez des choses?
Oui, moi je fabrique du son, je fabrique de la création radio, mais je fabrique aussi des choses plus musicales, je fabrique des photos. J'utilise ces outils-là pour fabriquer des choses. Après, ce que je fabrique réellement, je sais pas, mais peut-être que je sais qu'il y a Chérine et Ivani qui sont là de la mission locale avec qui j'ai travaillé. Peut-être qu'elles seront plus à même que moi répondre à ces questions, puisqu'on a commencé un travail ensemble, et peut-être qu'elles sauront mieux que moi dire ce que je fais.
Et toi, Jean-Luc, sur mais qu'est-ce que tu ou qu'est-ce que vous fabriquez?
Tu peux me tutoyer maintenant. Si tu...
Oui, parce que.
Non, mais c'est parce que, voilà, alors, c'est, justement, c'était
les étudiants, est-ce que c'est un artiste, est-ce que c'est un collectif, est-ce que c'est une équipe? Il y avait ça aussi sous-tendu dans ma question, c'est. Est-ce que c'est le projet d'un seul homme ou est-ce que c'est le projet de plusieurs?
Non, le Jardin de la Friche, c'est un projet avec les étudiants, c'est un projet pédagogique. Faire un jardin ici, c'est pas moi qui fais le jardin, je le fais pas faire non plus, on le fait ensemble. Et c'est pour ça que peut-être encore plus que d'habitude, les gens qui sont dans ces jardins, qui les fréquentent, qui les voient, qui les ignorent, ont une dimension très très importante. Et c'est un jardin, c'est pas un jardin secret, c'est-à-dire que c'est une image, l'image du jardin secret, aller jardiner pour être tranquille et tourner le dos aux gens. Il y a une très belle photo oui, j'hésite là maintenant, je ne sais plus si c'est Douaneau ou Cartier-Bresson, il y a une manifestation, un mur, et puis quelqu'un qui jardine. Et ça, vraiment, c'est une photo très, très, comment dire, très significative de cette idée, de ce poncif qu'on se retire dans son jardin, on ignore les autres, et jardiner, ce serait tourner le dos aux gens. Et en fait, d'abord le jardin, il y a toujours des voisins avec qui on s'entend, on s'entend pas, on échange, on est obligé de tracer des limites, etc. Et puis après, un jardinier, il a très envie d'inviter des gens. Puis un jardinier, il produit des choses qu'il a envie de, il a pas envie de tout se goinfrer, quoi. Il a envie d'en donner aux autres et pas qu'à sa famille. Donc il y a cette première économie qui est liée au jardin, qui est vraiment c'est quelque chose qui est fait pour les autres. Il y a un très grand écrivain et jardinier qui s'appelle Karel Čapek, tchèque, qui dans un très beau livre qui s'appelle L'année du jardinier, c'est construit comme un almanach, explique que dans le fond le jardinier, ça, produire des carottes, des fraises, des fleurs, tout ça, c'est pas quelque chose qui est son but. Son but, c'est d'améliorer la terre. C'est-à-dire que le véritable plaisir du jardinier, dit-il, c'est que la terre soit de plus en plus fertile. Et pour qu'elle soit de plus en plus fertile, il faut que passe par elle énormément de générations de plantes qui produisent des choses. Mais lui, c'est un passage, le produit. Et il y a toute une série sur ce que donnent les produits qu'on donne à la terre et comment le fait qu'elle offre des choses la rend encore plus fertile. Voilà. C'est ça, jardiner. C'est vrai que c'est une économie du gain en donnant. C'est quand même assez beau, quoi. Voilà. Et ici, ce jardin, il est très fréquenté, donc il est fragile, c'est pas toujours facile, et en même temps, c'est très agréable, cette fréquentation, ces paroles qui sont prononcées quand on est là ou quand on n'est pas là, qui nous reviennent, ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas, c'est plutôt bien. Jardin, c'est ça a l'air comme ça, très très gentil, très très joli. Quand on jardine, en fait, on faut jamais oublier que on décide qui va vivre ou qui va mourir des plantes. Alors évidemment, c'est pas des gens, mais quand même, ça donne un état d'esprit assez intéressant. On est obligé de tailler dans le vif, quoi. Surtout que maintenant, on est beaucoup moins certain de ce qui est mauvaise herbe et bonne herbe. On a quand même un petit peu, surtout dans ce jardin, on se pose la question à chaque fois, est-ce qu'on va garder cette plante ? Elle nous est sympathique. On n'est pas sûr que ce soit une mauvaise herbe. Ce n'est pas parce qu'on n'y connaît rien, mais c'est parce que tout ça est récemment devenu très relatif. Y a des tas de jardins qui mettent en scène, qui utilisent des plantes spontanées. Et de plus en plus, parce que jardiner comme on jardinait ce qu'on appelait les espaces verts devient de plus en plus cher. Donc on laisse un peu faire et on trie. Et du coup, c'est une autre manière d'aborder les choses, c'est tailler dans le vif, quoi. C'est décider qui va vivre et qui va mourir, en étant un peu responsable de ça, quoi.
Dans ce Cause Toujours, aujourd'hui, on est avec Jean-Luc Brisson et Christophe Modica. On va écouter un portrait sonore. Est-ce que c'est une surprise pour la personne qui va l'entendre ?
Alors oui, en quelque sorte, c'est une surprise parce qu'il s'agit d'un petit portrait sonore de Chérine Boisa qui est là ce soir et qui ne l'a pas encore entendu. Et donc, c'est une surprise, oui.
Je m'appelle Chérine Boisa, je suis chargée de projet à la mission locale de Marseille. J'ai en charge la filière culture et armée. Alors, moi, j'ai fait des études d'histoire. Donc, j'ai une maîtrise d'histoire. Et puis après, j'ai continué à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence, où là, j'ai fait en fait un DESS de management interculturel. Moi-même, je pense que je suis le fruit en fait interculturel, puisque moi je suis d'origine algérienne, mes parents sont d'origine algérienne, et on a un petit peu un parcours atypique, puisque mon père n'a pas immigré pour le travail, mais en fait il a immigré parce qu'il était marin. Donc un jour il a débarqué dans une île qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, et il a décidé de s'y installer, et moi j'y suis née en fait. Donc du coup, entre mon origine algérienne, ma naissance dans une île, puis après en débarquant à Marseille, qui est quand même très cosmopolite, et c'est pour ça que je dis que la personne, c'est important, la culture fait la personne, parce que on ne se dirige pas vers, on choisit en fait, voilà. Et je pense que ça, c'est important. Donc du coup, la question de l'interculturalité, oui, elle m'a posé la question, parce que comment les cultures peuvent se mélanger? Comment trouver un équilibre entre toutes les cultures? Comment on peut comprendre l'autre? Parce que l'interculturalité, c'est ça, c'est comment je peux aller vers l'autre si en fait je le connais pas. Donc, je suis passée aussi par la case rechercher un emploi, qui n'était pas très évidente. Il s'est avéré qu'en fait, donc une connaissance de ma mère m'a proposé un entretien d'embauche. À l'époque, ça s'appelait l'ANPE. Donc j'ai démarré un petit peu à l'ANPE. Puis après, j'ai postulé en mission locale. Entre-temps, je faisais des vacations aussi pour un centre de formation pour des animateurs BPJEPS concernant l'interculturalité. Et ensuite, donc, en postulant à la mission locale, j'ai décroché en fait un poste de conseillère. Et maintenant, je suis chargée de projet. Voilà, filière culture et armée. Quand j'ai démarré conseillère, oui, je pense que vraiment on est surqualifié. Puisque on a vu l'évolution, en fait, il y a 15 ans de ça, un conseiller, il fallait qu'il ait un bac plus 2 non validé, on va dire. Bac à bac plus 2 non validé. Je pense que le déclencheur, en tout cas à Marseille, a été là. C'est parce qu'ils ont respecté en fait les consignes de l'État qui demandaient des conseillers à partir de bac plus 4. Effectivement, pour conseiller, je pense qu'on est surqualifié parce qu'après, quand on a bac plus 4 ou bac plus 5, on vise à plus. Ben, c'est aussi ce qu'on nous a enseigné en même temps, hein, en disant que quand on sort de l'université, le monde s'ouvre à nous. Parce qu'on est diplômé, on a le droit d'exiger tel ou tel poste. Or, la réalité, elle est tout autre. C'est qu'on a le droit de rien, on n'exige rien. Parce que finalement, même si on est très diplômé, l'expérience, elle compte beaucoup. Mais quand on est jeune, l'expérience, on ne l'a pas forcément. Alors, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place et qui est très difficile. Et en fait, au final, on est obligé de revenir sur ses prétentions. Moi, je sais, quand j'ai recherché du travail, je me suis pris 3 ou 4 claques parce qu'en fait, je suis arrivée très, très fière avec mes diplômes en me disant, ben voilà, moi, mon directeur de DSS, il m'a dit que je pouvais être à ce poste-là. Mais quand on vous répond en face que ben non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, et donc du coup, vous dites, ah, mais là, il y a un problème, qui me dit la vérité, et voilà. Et je pense qu'il y a aussi un gros effort, bon, même si ça se met en place, au point de vue de l'université, c'est-à-dire que les diplômes sont certes importants, mais je pense qu'il faut redonner, alors moi j'y crois, même si j'ai fait des diplômes, si j'ai fait des études, c'est que je crois qu'il faut redonner la place au fait qu'on peut être autodidacte, qu'on peut apprendre sans avoir de diplôme, parce que il y a des gens qui ont des facilités d'adaptation, d'intelligence, qui captent très vite des choses, et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des diplômes pour arriver à tel poste. Et je pense que c'est dommage qu'aujourd'hui, alors après je sais pas dans les autres pays, mais en tout cas en France, on a perdu un petit peu de pouvoir apprendre tout seul. Je pense qu'il faut redonner cette chance à pouvoir apprendre seul, et qu'à un moment donné, on peut arriver à un poste, même un très haut poste, en étant autodidacte. Comment je, 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 com
Christophe va nous raconter. On se redéplace dans le village de Ville, va nous raconter ce qu'on vient d'entendre, puis on va discuter avec l'intéressée elle-même. Avant cela, il y avait Xavier. Salut Xavier.
Salut
avait une question.
Salut Christophe.
Une question laissée un peu en suspens. Hein.
Ben, juste là, une toute petite réflexion. Évidemment, cette mission qui associe à la fois culture et armée, ça me pose évidemment un peu question. Mais ce n'était pas la question que j'avais envie de poser. C'était plutôt à Christophe. Tu es en résidence dans ce quartier depuis quelques temps déjà. Et l'enjeu de cette résidence, c'est une réflexion sur le travail et le lien social. Et j'aurais voulu te demander qu'est-ce que tu entendais, qu'est-ce que tu avais perçu, qu'est-ce que c'est que le lien social ?
Le lien social, je crois que c'est à un moment donné cette capacité qu'on a à faire les choses ensemble. Je ne parle pas forcément de grandes choses, mais ça peut être boire un coup ensemble, aller acheter du pain ensemble, des toutes petites choses, mais je crois que c'est ça, c'est cette capacité qu'on a de faire des choses ensemble. En tout cas, c'est ce que moi je mets là derrière. Voilà, donc Chérine me disait... que c'était toujours difficile de s'entendre, et j'imagine volontiers que c'est vrai. Alors évidemment, Xavier en a parlé, et puis d'autres, quand ils ont entendu culture et armée, m'ont demandé si c'était bien ça qu'ils avaient entendu. On en a déjà discuté, mais peut-être donner une petite explication, un petit éclairage de cette association culture et armée.
En fait, je pense que c'est surtout un concours de circonstances. Ou un petit clin d'œil de ma direction, je ne sais pas du tout, je me pose encore des questions, mais en fait, elles sont associées sans être associées, en fait, parce que je les travaille, bien sûr, différemment. C'est pas du tout le même esprit, c'est vraiment l'opposé. C'est pas facile, parfois, voilà, ça interroge et ça surprend toujours, et puis maintenant, je commence à avoir l'habitude, parce que ça va faire 2 ans, donc je le prends avec humour plutôt. Voilà. J'ai pas vraiment d'explication, puisque c'est pas moi qui ai choisi l'association de ces deux filières.
Voilà. Je crois qu'après, je vais laisser la parole à Claude qui voulait rebondir.
Oui, Claude Renard, je voulais rebondir sur l'aspect autodidacte. Parce que je suis d'une génération où il a été possible, en étant autodidacte, d'arriver, entre guillemets, aux plus hautes fonctions de l'État. Et j'ai été chargée de mission auprès des préfets sur la politique de la ville, etc. Et à chaque fois que j'en parle avec ma petite famille, je viens de l'éducation populaire. Et donc, normalement, je n'étais pas du tout préparée à avoir des fonctions dans les services de l'État. Et je pense qu'il y a eu une période, effectivement, où le fait même de... Quand je suis arrivée à la délégation interministérielle à la ville... les collègues qui étaient tous des hauts cadres d'administration, ils disaient « Ah oui, mais Claude, elle vient du terrain ». Et donc, le terrain pour eux, c'était ce que vous appelez les uns et les autres, au fond, le lien social. C'était la capacité d'avoir fait pendant des années, pendant 12 ans, dans un centre social, culturel, toute une série d'événements qui avaient créé des liens avec les habitants. Et moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, l'un d'entre vous, sur la notion des micro-projets. On n'a pas fait forcément des grands projets à ce moment-là, mais toute une série de petits micro-projets dans un quartier de 15 000 habitants où la somme de tous ces petits micro-projets ont permis que se mette en place ce que je peux appeler peut-être une maîtrise d'usage par rapport aux aménageurs du quartier. On a réussi à se faire reconnaître parce qu'on avait des micro-interventions urbaines avec des gens, avec des habitants, avec des mômes et avec toute une série d'actions. Et je pense que ce qui est formidable, c'est quand j'ai aussi vécu peut-être aussi une période où l'éducation populaire avait une place plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui et où il était possible de mener toutes ces actions pour arriver, disons, à concrétiser ce qui peut représenter un rapport de force par rapport aux aménageurs, par rapport aux élus, et qu'aujourd'hui, c'est plus difficile parce que ces petites expérimentations, on a tendance à penser à ces formidables, tous ces gens qui s'organisent, nous avec les brouettes, par exemple, du quartier. Effectivement, on ne demande pas un rond, on est un collectif informel. Mais malgré tout, on est obligé, effectivement, pour se faire reconnaître et devenir visible, de faire des efforts très importants et de nous appuyer sur une série de lieux comme celui-là, qui, eux, arrivent à obtenir quelques moyens. Donc, je pense qu'il faut à la fois les micro-projets, très importants. Pourquoi c'est important, les micro-projets ? Parce qu'on les maîtrise. Et dans les micro-projets, on maîtrise ce qu'on fait. Alors que dans les macro-projets, on est bien placé ici pour savoir qu'on peut aussi à la friche être débordé et tout d'un coup être repris par l'envie d'être le désir des investisseurs, des aménageurs, des élus, de vouloir tout contrôler. Le micro-projet, on le maîtrise. Et c'est ce qu'a expliqué très bien Jean-Luc et toi, en disant que les petits projets, ben on ne se laisse pas déborder et les habitants, ils arrivent à le contrôler. Nous, avec les brouettes, on essaye ça. Et par rapport au travail, pour avoir été dans toutes les questions transversales, que tu fasses l'armée et le reste, pour moi, ça ne m'étonne pas, parce que la délégation interministérielle à la ville, à une époque, le lien social, c'était tout ça. On s'occupait de tout ça, de cette transversalité, de l'interministérialité. C'est essayer de faire que tous ces gens-là travaillent ensemble. Et je pense que des postes comme ça, c'est extrêmement important, parce que c'est en partant de toutes ces énergies, y compris celles de l'État, des élus et autres, qu'on arrive à avancer. Peut-être qu'on changera la société, je l'espère.
Merci Claude, Claude Renard.
Juste un mot, je rebondis juste un mot, parce que quand on en avait parlé avec Chérine de cette association Culture Armée, elle m'avait dit quelque chose que je trouve... Il peut paraître anodin, mais qui pour moi est assez important. Elle m'avait dit l'armée est très flattée et les gens de la culture sont plutôt réticents. Et je trouve ça important parce que finalement, nous, les gens de la culture, on se dit souvent qu'on travaille pour l'ouverture, la curiosité, on doit tous... Et en même temps, là où quand l'armée est flattée, nous, on se dit merde, qu'est-ce qu'on fout avec eux, quoi.
Christophe Modica. Jean-Luc, sur la, on en parlait un peu hors micro sur qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce que vous fabriquez. Nous en parler un peu avec aussi cette affaire, quand j'en ai entendu parler, elle préexiste à tes implications sur la friche Label de Mai, mais ces affaires de fausse monnaie. Alors il n'y a pas que ça, on fabrique plein d'autres choses, mais alors cette histoire de fausse monnaie, comment on passe du jardin à la fausse monnaie ?
Puisque tu m'as posé la question, j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu, qu'est-ce que je fabrique ? En fait, je crois que je ne sais pas trop ce que je fabrique, mais je sais vraiment que à certains moments, il y a des choses qui se sont fabriquées. Je constate qu'il y a eu des fabrications. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est... depuis très longtemps, je crois, c'est l'évaporation. C'est ce mouvement d'un moteur qu'on n'a pas besoin d'entretenir, qui produit de l'échappement, de l'envolée. Ça marche tout seul. J'ai fait pas mal d'automates à évaporation motrice et ça m'a fait réfléchir. Et je crois que ce que je fabrique, c'est des histoires qui s'envolent et qui se condensent. C'est ça que j'aimerais faire. Et si ça passe par le jardin, c'est très bien, parce qu'en plus, le jardin, c'est un lieu magnifique de l'évaporation et du passage de l'eau depuis la terre jusqu'au ciel par les plantes, et en même temps de l'arrosage du ciel jusqu'aux racines, quoi. Enfin, c'est ces échanges permanents qui m'intéressent dans le jardin. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est que des histoires s'évaporent, se condense. C'est-à-dire, c'est bien sûr, ça peut passer par le livre, ça peut passer par la discussion, par la radio, etc. Mais justement, tu me parles de fausse monnaie, c'est dans ce quartier du Plan d'Ao, au nord de Marseille, où on a installé une banque, la Bank of Paradise, qui fabrique de la fausse monnaie. Et c'est pas venu de rien, c'est une histoire qui continue l'histoire de ce quartier où par exemple le film de Guédi Guian, L'argent fait le bonheur, a été tourné, et où cette histoire de l'argent et du hold-up dans le film, elle a été presque vécue par les habitants et racontée après comme quelque chose qui était réellement vécu, qui s'était réellement passé. Et ça, ça m'a beaucoup touché que des histoires qu'on raconte puissent être racontées comme, ou qu'on écrit ou qu'on filme, puissent être racontées comme des histoires qu'on a vécues. On est dans un tel flottement dans ce quartier qui est en rénovation urbaine, où on ne sait même pas ce qui va être construit, pas construit, où vont être les bâtiments, ceux qui vont être démolis, etc. Les gens sont très calmes, ils sont un peu énervés, mais ils sont gentils, ils n'ont pas tout cassé, hein. C'est vraiment admirable. Et en fait, il y a des histoires qui tournent. Et alors, bon, la fausse monnaie, on s'est mis à fabriquer de la fausse monnaie, pourquoi ? Parce que c'est un moyen qu'on a trouvé assez gai, assez rigolo, d'aborder les gens et de se parler, quoi. En plus, autant parler des choses directement qui font du bien ou du mal, c'est-à-dire l'argent, quoi, dont on parle pas trop quand même, hein. C'est pas la première chose dont on parle, combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais, enfin, dans notre culture. Donc, voilà, c'est venu de cette envie, parce que avant d'être une valeur, un billet est une image. Un billet, c'est du dessin, d'abord. Avant d'être 100 euros, 50 euros, c'est un dessin qu'on a, une image. Et en plus, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, qu'on voit différemment. Et donc, ça commence par une incitation au dessin. C'est-à-dire qu'on a envie de dessiner, de faire dessiner, de montrer des dessins aux gens. Parce que, comment dire ? Le dessin, c'est comme beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'attendre le droit de dessiner. On n'est pas obligé de faire des dessins qui vont être exposés dans les pièces, dans les musées, dans les... Enfin, je sais pas, on peut dessiner. C'est l'acte de dessiner qui est très important. C'est-à-dire être stable pendant un moment, dans un lieu... dans une espèce de paix. C'est pas la même chose que faire une photo ou faire un film où on est quand même, il y a une espèce on a une arme, quoi, qui vise, etc. Là, on est quelque part un peu replié, on peut s'asseoir à côté. Si on fait l'expérience de dessiner dans un... Quelque part, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui regarde par-dessus l'épaule, qui dit « ouais, vachement bien », ou alors « bah, ça, on ne voit pas, c'est pas, ça ne ressemble pas », enfin voilà, c'est des tas de discussions comme ça. Donc c'est des dessins de trois types, hein, dessins comme on fait au téléphone, ou bien des dessins parce que tout d'un coup on a envie de dessiner ce qu'on a devant soi, ou alors pourquoi pas encore un troisième type, le dessiner ce qu'on aimerait bien avoir devant soi, voilà. Donc tous ces dessins, on les scanne, la banque Bank of Paradise scanne ses dessins et propose sur un écran aux gens qui ont fait ces dessins de les transformer en billets de banque. Alors on a déjà des tas de modèles, on a pris par continent, il y a des billets de banque qui sont magnifiques, on n'imagine pas comment c'est beau un billet de banque, quoi, voilà. Et surtout quand on le voit en image et qu'on le voit comme une image surtout. Et puis, les gens décident d'avoir de la monnaie, de la devise, de ce qu'ils ont envie d'écrire. Alors, c'est 0,3 dinars, c'est 300 000 patates, c'est ce qu'on veut, hein. Et puis, autant qu'on veut. C'est-à-dire que on entend dire qu'on ne fait pas assez de billets, que c'est des choses très mal de faire beaucoup de billets. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je ne comprends jamais rien, hein. La BCE. Et les Américains n'ont pas l'air d'accord sur le nombre de billets à éditer, tout ça. Je n'ai pas tout compris. J'ai essayé, hein, et j'essaye toujours. Et je commence à comprendre des choses, mais je n'ai pas tout compris. Parce que je pense qu'on n'est pas là pour comprendre, en fait. Et donc, on fait des billets. On fait des billets autant qu'on veut. La Bank of Paradise est vraiment elle ne rechigne pas à faire tourner la planche à billets. Vraiment, on en fait autant qu'on veut. Ça, c'est pour, parce que pendant tout ce temps-là, manipuler de l'argent, mais c'est vachement agréable. On l'a fait un peu, c'est un projet qui commence, mais on est vachement joyeux de manipuler de l'argent avec les enfants, avec les habitants. Ça fait du bien. Même nous, on a un peu d'argent quand même, mais en telle quantité, le fabriquer, tout ça, c'est vraiment agréable. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très important dans ce quartier, c'est que, et c'est un peu ça qui m'y a fait penser sans doute, c'est que l'argent est déjà là. C'est-à-dire que le sol du plan Dao est tellement jonché de choses qui brillent que moi j'ai du mal à le voir autrement comme un trésor. Et plein de ces objets m'ont déjà suggéré plein d'histoires. J'ai envie de raconter des histoires avec tous ces fragments que je ramasse. Donc il y a une vraie valeur dans toutes ces choses qui sont laissées, abandonnées sur le sol et qui brillent. Je peux dire encore un truc, d'où ça vient, c'est aussi une lecture de Diogène, le philosophe, le chien, le cynique, celui qui vivait dans un tonneau. Et il disait que, alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on invente souvent une vie à ces philosophes qui correspond à ce qu'ils disent, mais lui, on a dit que son père était banquier, et qui faisait de la fausse monnaie avec son père. Ce qui était un peu son idée principale dans sa philosophie, qui était faut montrer des fausses valeurs pour arriver à toucher les vraies. Et du coup, il disait que la monnaie la plus valable, ce serait la monnaie, en gros, il n'y aurait qu'à se baisser pour la ramasser, et notamment des osselets. Il disait des osselets, ça ferait une bonne monnaie, c'est-à-dire qu'on ramasse un osselet, on va échanger, etc. Et il y a plein d'osselets au plan Dao. Donc ça m'a plu aussi, toutes ces correspondances, toutes ces lectures sur l'argent, sur voilà. Et c'est un projet qui a commencé avant les crises des banques et tout ça. Et au fur et à mesure que j'élaborais ce projet, j'entendais des choses hallucinantes quoi, sur les banques. C'est-à-dire que... tout d'un coup, on se met à vouloir prêter de l'argent aux banques, enfin, donner de l'argent pour les sauver. Moi, je me dis, dans le fond, je fais une banque, je suis subventionné par de l'argent public, c'est pas plus mal, et beaucoup moins, bien sûr. Donc, je suis une vraie banque, puisque je suis subventionné par l'argent public. Voilà. Et quand vous allez dire à quelqu'un, je vais faire un centre d'art ou je vais faire un laboratoire de recherche, c'est pas le moment, mon vieux, c'est pas le moment. Mais si on dit, je fais une banque, eh ben, les gens vous regardent avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'intérêt. Et ça m'a bien plu d'être. Donc je suis dans une histoire en fabriquant une histoire. C'est ça que je fabrique. C'est de l'histoire qui s'en va, qui revient, etc. Qui n'est pas forcément dans les livres, qui est sur le terrain, quoi. Et j'en entends parler après. Il y a des gens que j'avais jamais rencontrés. Ils me disent, ouais, il y a un type, il fait une banque. Voilà. Alors il me raconte comment ce type fait une banque, tout ça, où il va s'installer, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant.
Merci Jean-Luc. Christophe, on va écouter un autre son. C'est pas une récolte marseillaise
sur le commerce.
Ouais.
Ça tombe bien après avoir parlé de banque.
Voilà.
Oui, j'ai travaillé à Bègle l'automne dernier et c'est à l'issue de plusieurs entretiens que j'ai fait là-bas que j'ai fait cette petite création autour de la notion de commerce.
La vie a commencé à Bègle à changer quand on a commencé à installer le premier mammouth. Les gens ont commencé à aller à faire leur commission là. Vous voyez, ça a commencé à se diversifier. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de... Comme le limonadier qui faisait ça, qui livrait la bière, qui, justement pour les restaurateurs, les bars, les machins comme ça. Mais il n'a plus d'être. Disparu. Vous avez... La vie s'est transformée. Et les gens ont commencé à voir les choses différemment. On veut toujours profiter des avantages. Mais en fin de compte, il y a la contrepartie. Celle-là, on ne la voit pas. On ne la voit qu'après. Mais on a tellement pris l'habitude. Alors, on ne la change pas. D'abord, quand vous allez dans un supermarché, le supermarché, il ne peut pas produire les mêmes choses que sur un marché. C'est pas possible. Dans un supermarché, il sait ce qu'il va vendre et ce qu'il ne va pas vendre. Donc, les gens s'habituent comme ça. On achète, oh, mais ça, on fera comme ça. Puis on prendra la boîte de conserve. Et puis c'est une vie qui s'installe différente.
Moi, j'estime que le mieux, c'est de rester chacun chez soi.
Et maintenant, vous avez des cochons anorexiques. Ils sont tellement... Ils veulent faire... ils sont tellement maigres, les pauvres bestioles, que quand on vous parle de rôti, vous vous demandez ce que c'est.
On ne fera plus jamais fortune dans le commerce aujourd'hui, c'est terminé ces périodes-là, mais voilà, on achète quelque chose à un prix, on le revend à un autre prix, donc on fait un coefficient, ça c'est le commerce.
On n'est pas des maquignons, on est des commerçants.
Derrière, il y a un vrai travail de commerçant. Mais voilà, on n'est pas des maquignons, on est des commerçants juste. Donc on a un travail, une utilité, une présence et une attention qui est différente. Donc on fait notre métier, on gagne de l'argent en faisant notre métier de commerçant ou d'artisan, puisqu'il y a des artisans, et on le revendique, mais on ne veut pas être confondu avec d'autres formes de commerce. On est toujours très choqués ici quand Laurence Parisot dit nous les entrepreneurs, parce que nous on ne fait pas partie du même monde que Madame Parisot. On n'est pas dans le même monde, on est ailleurs, autrement, et on est dans les villes. Au cœur des choses, au cœur des gens, au cœur des...
On est dans les villes.
Donc pour nous, c'est
au
important.
Cœur des choses,
et en plus...
Au cœur des gens.
Nous pensons que l'avenir étant les gens, c'est nous qui avons raison et c'est nous qui resterons à la fin. Et que dans quelques années, il n'y aura plus ces grandes surfaces de consommation consumériste au plus mauvais sens du terme.
Des choses, au cœur des
comme
gens.
Il y a aujourd'hui une agriculture raisonnable, il y a aujourd'hui des commerçants raisonnables. Et c'est dans les centres-villes qu'on les trouve. Ceux qui ne sont pas raisonnables ne tiennent pas. Parce que, voilà, les gens ne reviennent pas. Les gens ne reviennent que sur un bon produit ou un bon accueil. Donc si on n'aime pas les gens, on ne peut pas être commerçant, ce qui est le cas de Carrefour et de toutes les grandes enseignes. Ce n'est pas les gens qui les intéressent. Ils sont banquiers, ils ne sont pas commerçants. Et nous, on est des commerçants raisonnables dans les centres-villes. Ce qui reste, en tous les cas, oui, c'est
on
ça.
Est ailleurs, on est ailleurs, autrement.
Bonjour, Bruno. Il y a nos anciens aussi qui arrivent, les anciens. Voilà, Bruno.
Bonjour, monsieur.
Pour les anciens aussi, c'est un lieu important parce que souvent, c'est la seule fois dans la journée où ils vont parler. Donc ça, c'est important. Pour les mamans qui sont toutes seules, c'est aussi un repère pour se retrouver avec d'autres. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de cantine dans les lieux de travail. Et donc, les gens n'ont plus de lieu où se retrouver ou parler. Souvent, le midi, c'est bien pour ça aussi. Et après, je pense qu'il y a à la fois, nous, notre volonté d'ouverture, d'écoute, et puis le fait que les gens aussi se sont saisis du lieu.
Il y a beaucoup de gens qui font semblant de l'être, mais il y a très peu de riches, en définitive. C'est une vraie minorité qui nous casse les couilles, quoi, en définitive. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, quoi, tu vois. Voilà, et s'il doit y avoir des hasards, on le provoque, quoi. Hein, et c'est vrai que c'est la première des choses, c'est ne pas se résigner, quoi. T'as raison, il ne faut pas se résigner. On nous présente des projets comme étant inéluctables, ils ne le sont pas, quoi. S'ils le deviennent, c'est parce qu'ils le sont dans nos têtes, inéluctables. Hein, voilà.
Il y a des choix politiques à faire. C'est un choix, après, c'est toujours un choix, de toute façon.
Tout dépend de choix politiques.
Mais politiquement, rien n'empêche, par exemple, que si on fait le constat qu'aujourd'hui, dans un contexte mondialisé, il n'y aura plus jamais assez de travail pour tout le monde, ou que le travail, il faut le réfléchir différemment.
Il faut réfléchir le travail différemment.
Mais à un moment donné, qui empêche aujourd'hui les politiques, ou nous, en tant que citoyennes, de faire des choix politiques pour permettre l'accession à un logement au plus grand nombre. Rien n'est inéluctable que les pauvres aillent habiter
le travail
à la
pérécoute.
C'est pas inéluctable, ça. On peut très bien avoir des choix politiques, des décisions politiques ici, pour construire des logements à la portée de toutes les bourses.
Tandis que là, on a l'impression que ça va être livré aux affairistes.
C'est-à-dire à ceux qui nous font du mal, à ceux qui ont déjà créé les conditions de la misère et de la pauvreté. On leur livre des quartiers entiers. Et
c'est tout ça, dépend de choix politiques.
Et aujourd'hui, les choix qui sont faits sont délibérément des choix de droite pour les quartiers d'affaires et pour les grands riches. Voilà, il y a des choses qui se passent. Moi, je crois que ça ne peut venir que des citoyens. Il faut que les gens se réapproprient les choses. Hein, c'est pas un précaré, la politique. Ça appartient à chacun d'entre nous. Voilà. Et d'ailleurs, quand on intervient, politiquement, on dérange.
ça bouge.
Ils nous veulent bien, caritatif, le dos courbé. Ils nous aiment bien. Ils nous tapent sur l'épaule en disant c'est bien ce que vous faites, continuez. Mais dès qu'on intervient dans le champ politique ou dès qu'on ose émettre des idées contraires aux leurs, oh là, alors là, surtout pas, ça c'est pas nous, c'est pas de nous. Mais pourquoi ? Pourquoi ? On serait juste citoyen que lors de les dimanches pour aller voter ?
On est dans Cause Toujours, au village de Ville. Avril ne te découvre pas d'un fil. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Et on a des invités surprises. Alors, bonjour les gens.
Bonjour. Donc, en fait, moi, je suis designer. Je m'appelle Hélène Boulle et je suis installée sur le quartier depuis un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai un atelier qui est 2 pas d'ici, que je partage depuis maintenant 1 an avec Saraka, qui est créateur en matière. Et depuis quelques semaines, à l'initiative de l'association Espigaou, on a décidé d'accueillir au sein de l'atelier des séances de végétalisation urbaine. Et donc, je vais vous passer la parole à Ludo de l'association Espigaou, qui va nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit.
Donc en fait, c'est un projet de végétalisation urbaine. On prépare la butinerie à la Belle de Mai. Donc on sème et on essaime. Donc c'est vrai que j'ai entendu parler que la friche était un peu branchée abeilles, avec des ruches qui avaient été mises sur le toit à une époque. Donc c'est un peu le même principe. Donc c'est de proposer, par le biais d'ateliers, des techniques de végétalisation urbaine qui se font par le biais de certaines, par le biais de bombes de graines, par exemple. Il y a aussi un travail qui avait été effectué avec un poète marseillais, Jean-Pierre Rive, à qui je rends hommage ce soir, qui sont les attrapes-lumières, dont les attrapes-lumières font partie du projet. Il y aura aussi des gouttières végétales, donc plusieurs projets comme ça, dont la Belle de Mai sera le laboratoire, avant tout d'ici mi-mai. Et là, donc, tous les mercredis, de 16h à 19h, on propose aux personnes qui veulent de venir avec nous jardiner avant tout. Voilà, donc le but est de faire un collectif. Alors, tout cela ne se fera pas tout seul, quoi. Il va falloir impliquer évidemment la population locale, donc par le biais d'actions de végétalisation de rue, de la rue Fontaine, dans le 3e à la Belle de Mai, qui participera au concours de Marseille en fleurs. Et ensuite, une petite rue qui donne sur une place qui s'appelle Aljana, qui a été baptisée comme ça par les habitants de la Belle de Mai, donc qui est entre le théâtre Gyptis et l'avenue de la Belle de Mai, en fait, hein, qui relie. Et donc cette place a été peinte, et puis il y a eu des pots de fleurs qui ont été mis. Il y a eu une inauguration, voilà, déjà de cette place.
Juste pour plus d'informations et pour les détails techniques, histoire de faire un petit peu la pub en même temps, www.label-marseille.com pour retrouver toutes les infos. Donc tous les mercredis de 16h à 19h à l'atelier Label au 20 boulevard Lessia.
Merci. Moi je voulais conclure avec deux questions pour toi Christophe et toi Jean-Luc. Deux questions un peu patate chaude. De quoi nous n'avons pas pu parler ce soir?
Alors moi j'aurais aimé parler du velcro. Parce que c'est la dernière invention dans le textile pour rassembler des pans de tissu ou des chaussures. Enfin, on a beaucoup de velcro quand même. Nous, maintenant, on a la fermeture éclair, c'est un petit peu. Enfin, des fois, ça blesse, ça casse, tout ça. Le bouton, enfin, vous voyez, le velcro, c'est quand même assez génial. Et velcro, ça fait pas longtemps que je sais ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire velours crochet. En fait, pour moi, c'est magnifique ce lien. Parce que d'un côté, il y a le crochet qui a été utilisé, l'inventeur dont j'ignore le nom, je suis en train d'y travailler, hein, donc pour l'instant, j'ai pas tout. Mais il est parti du chardon à foulon, c'est-à-dire du cardère, le cabaret aux oiseaux, des plantes de friche comme ça. C'est un chardon qu'on passait sur les tissus pour les adoucir, avec des crochets qui a des pointes comme ça recourbées. Et il s'est rendu compte que quand on lance, mais vous savez, la bardane aussi, ça, quand on lance ces teignes là comme ça, ça reste sur les tissus. C'est comme ça qu'on a inventé le velcro. Et je me dis, c'est bien parce que d'un côté, il y a quelque chose de doux, de lisse, de riche, hein, d'établi. Et puis de l'autre côté, il y a le truc qui vient comme ça, qui s'accroche, mais qui n'est pas vraiment méchant non plus. Vous voyez, c'est intéressant. Et alors, quand on les arrache, ça fait...
Merci Jean-Luc Brisson. Christophe, Monica.
Non, mais là, il n'y a plus rien à dire.
On se quitte là-dessus. Merci à tous les deux, Christophe Modica, Jean-Luc Brisson, à vos invités.
À vous.
Aux équipes de La Grenouille, de Système Friche Théâtre, de la SIC, Sébastien qui était en console. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau Cause Toujours. A bientôt.
Cause Toujours. Cause Toujours. Junto com o mojo.